Voilà, je suis heureux d'être au milieu de vous ce soir et de vous saluer dans le nom du Seigneur. Je suis aussi très heureux que vous ayez eu cette idée, cette initiative de commémorer le 40e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Comme on dit en hébreu, kol hakavod, toute la gloire, enfin, comment est-ce qu'on peut dire en français ? C'est à votre honneur, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on peut traduire. Je suis aussi heureux de revoir nos frères et amis Rocha et de souhaiter à notre sœur Rocha Chag Sameach un joyeux anniversaire. Voilà, donc je voudrais cet après-midi, ce soir plutôt, effectivement partager avec vous ce que j'ai pu vivre pendant ces moments qui bien sûr sont pour moi des moments absolument inoubliables. Quand nous avons assisté en direct à l'accomplissement de ces événements prophétiques, la réunification de Jérusalem. Je voudrais introduire ce témoignage par deux lectures. La première dans le livre des psaumes, au psaume 122, le cantique des montées, cantique des pèlerinages de David. Psaume 122. Je suis dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds se sont arrêtés à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, toi qui es bâti comme une ville qui forme un ensemble bien uni. C'est là que montent les tribus de l'Éternel comme témoignage pour Israël, afin de célébrer le nom de l'Éternel. C'est là que sont installés les trônes pour le jugement, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, qu'ils vivent tranquilles ceux qui t'aiment, que la paix soit dans tes remparts et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je dis que la paix soit sur toi. À cause du temple de l'Éternel, mon Dieu, je recherche ton bonheur. Et un deuxième texte dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc au chapitre 21. Il a été fait allusion à ce texte tout à l'heure parce que c'est effectivement la prophétie qui s'est réalisée, ce fameux 7 juin 1967, verset 20 donc du chapitre 21 de Luc. « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem s'en retirent, et que ceux qui seront dans les campagnes n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront dans ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ce 7 juin 1967, vers 11h et quelque chose, nous étions sortis de nos caves, nous avions été terrés pendant 70 heures, bombardés sans arrêt, et nous étions absolument surpris d'être encore en vie. Et alors que nous étions là, attendant la suite des événements, l'oreille collée à la radio, soudain, un soldat a frappé à la fenêtre. Et il a dit cette parole, « Le monde du temple est entre nos mains. » Et là, nous avons réalisé que nous venions de vivre l'accomplissement de cette prophétie que nous venons de lire. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que soient achevés les temps des nations. Et nous venions de prendre conscience qu'à cette minute même, eh bien, ces temps donnés aux nations pour fouler aux pieds Jérusalem venaient de prendre fin. Et ce fut une véritable explosion de joie dans la ville de Jérusalem, déserte quelques minutes encore auparavant. Et chacun de ceux qui avaient été terrés dans ses abris est sorti. Et en l'espace de quelques minutes, les rues de Jérusalem étaient noires de monde. Les gens tombaient dans les bras les uns des autres. s'embrasser, pleurer de joie. Et tous, nous nous dirigeons vers les bureaux de poste, qui venaient justement de rouvrir, après avoir été fermés pendant les 3 jours du siège de Jérusalem, pour envoyer des télégrammes à nos familles, pour les rassurer sur notre sort. Et je me souviens, entrant dans ce petit bureau de poste qui était à quelques minutes de l'endroit où je me trouvais, j'étais nez à nez avec un de mes professeurs, professeur d'assyriologie, et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Il venait juste d'envoyer son télégramme, j'allais le faire. Et il avait mis sur son télégramme la même chose que je m'apprêtais à mettre, le verset du psaume 126, « Nous vivons un rêve. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Mais avant que ce rêve ne se réalise, ne se matérialise, nous avions vécu un cauchemar. Ce cauchemar, il avait commencé 3 semaines plus tôt. C'était l'époque où les choses étaient parfaitement calmes. Enfin, parfaitement calmes. Autant que ça pouvait l'être là-bas. Calme, routinier, rompu par des incidents de frontières quasi permanents. Et il arrivait parfois la nuit que nous soyons réveillés par des tirs, des bombardements, même parfois à l'arme plus lourde, ça pouvait durer quelques heures, et puis ça se calmait. Ou bien c'était un habitant qui habitait près de la frontière, qui sautait sur une mine qui avait été placée la nuit par des terroristes, la routine quoi. Tout était calme. Et personne ne pouvait s'imaginer que ce ciel bleu allait soudain être troublé par un orage que personne, absolument personne, n'avait prévu ni voulu. Et qui était tout simplement l'accomplissement du plan de Dieu, parce que le temps fixé par Dieu était arrivé. Et quand le temps de Dieu est venu, les hommes peuvent s'y opposer de 1000 manières. Les choses s'accompliront comme Dieu l'a prévu, comme Dieu l'a voulu. Et voilà, en ce mois de mai 1967, alors que Israël avait été fatigué de jouer les héros, il y avait cette aspiration, cette soif à la normalité. On avait remplacé le vieux lion Ben Gurion par le falot Lévi Eshkol, celui dont on disait que quand on lui demandait « Vous voulez du thé ou du café ?», après avoir réfléchi une demi-heure, il répondait « Moitié-moitié ». Voilà le dirigeant que nous avions à l'époque. Et comme l'a dit notre frère tout à l'heure, nous nous acheminions vers le 19e anniversaire de l'État d'Israël, qui cette année, selon le calendrier juif, tombait le 15 mai 1967. Et depuis la création de l'État, il y avait une coutume qui voulait qu'un grand défilé militaire ait lieu chaque année dans l'une des principales villes d'Israël. Et cette année-là, c'était le tour de Jérusalem, qui devait accueillir ces festivités du jour de l'indépendance, 19e anniversaire. Mais Jérusalem avait un statut particulier. Depuis la guerre de 1948, depuis la fin des combats, Jérusalem était une ville coupée en deux. Une partie, la partie est de Jérusalem, la partie historique, la véritable Jérusalem, si j'ose dire, était entre les mains des Jordaniens, et la partie ouest, où nous habitions, la partie juive, qui était une ville qui n'avait strictement rien d'historique, était, elle, séparée de la Jérusalem historique par un mur de béton. Et il se trouvait que, pour ma part, j'habitais à peu près à 150 mètres de cette barrière de béton. Et pour accéder à Jérusalem, il fallait emprunter une unique route, qui serpentait pendant, une trentaine de kilomètres peut-être, dans ce que l'on appelait le corridor de Jérusalem. Ça veut dire dans une étroite bande de terre qui était enclavée dans la partie jordanienne du pays. Et ce corridor de Jérusalem, on y accédait par une forteresse qui était aux mains des Jordaniens, qu'on appelait la forteresse de Latroun, au bas de la montagne. Et il était très facile de couper cette route, ce qui avait été le cas en 1948, quand la ville de Jérusalem juive avait été assiégée pendant plusieurs mois et avait été libérée d'une manière assez miraculeuse d'ailleurs, mais ce n'est pas le lieu ici de le raconter ce soir. Et donc, les accords d'armistice prévoyaient un statut particulier pour Jérusalem. D'abord, comme aujourd'hui, aucune nation ne reconnaissait que Jérusalem était la capitale d'Israël, bien que le gouvernement israélien y ait transféré sa capitale. Deuxièmement, on n'avait pas le droit de faire transiter par Jérusalem ni avions, ni tanks, ni matériel militaire lourd. Et alors, on en avait longuement discuté au sein du gouvernement israélien. Est-ce qu'on va respecter ces accords d'armistice ou est-ce que, malgré tout, on va faire défiler à Jérusalem du matériel lourd? Et les nations s'y en étaient mêlées en disant, si vous faites passer du matériel lourd, aucun de nos diplomates n'assistera à ce défilé. Alors, le timide Eshkol avait dit, on ne fera qu'un mini-défilé. Et bien qu'on ait pris cette décision, les nations avaient décidé toutes de boycotter les festivités du 19e anniversaire de Jérusalem. Et ce défilé passait sous mes fenêtres ce jour-là. C'était exactement il y a 40 ans. En l'espace d'un quart d'heure, peut-être, ce défilé a été complètement achevé. J'étais assez frustré, déçu de voir la modestie de ce défilé. Et l'après-midi, je suis resté dans ma chambre, l'oreille collée au transistor, alors qu'était retransmis en direct du Grand Palais de la Nation, un festival de musique israélienne qui a lieu tous les ans pour le jour de l'indépendance. Ce jour-là, 10 des meilleures productions, chansons qui avaient été produites dans l'année écoulée, étaient exécutées après avoir été soigneusement sélectionnées, et un jury choisissait la meilleure chanson qui recevait le premier prix cette année-là, donc de la meilleure chanson qui avait été composée dans l'année en Israël. Et alors, j'étais dans ma chambre parce que je n'étais pas parmi les happy few qui avaient le droit d'accéder au Grand Palais de la Nation. J'étais réduit à écouter ça sur ma petite radio. Et alors, plusieurs chants avaient déjà été exécutés. Et un des derniers chants, soudain, le présentateur a annoncé « Maintenant, le chant qui vient » a été écrit par une compositrice très réputée déjà à cette époque, Naomi Shemer. Elle va être chantée par quelqu'un qu'on ne connaissait pas, Shuli Nathan, et le nom du chant, c'est Yerushalayim Shel Zahav, Jérusalem d'or. Et dès les premières mesures de ce chant, j'ai senti quelque chose de très particulier. Ce chant, on l'a chanté tout à l'heure, je vous résume simplement ce qui est dit. Le vent des pins est comme un vin moelleux qui souffle sur les montagnes. Là, il souffle dans les montagnes en portant la voix des cloches. Et c'est le refrain « Jérusalem d'or, de cuivre, de lumière, pour te chanter dans tous tes chants, ne suis-je pas comme une lyre ?» Et le deuxième couplet était très, très, très poignant. Il dit « Les sources qui sont dans les grottes du désert sont à sec. Personne ne visite la montagne du temple. Dans les grottes, au sein des rochers, les vents hurlent et personne ne descend plus en direction de la mer morte par la route de Jéricho. » Ça veut dire, ça décrivait l'état actuel. Et ce chant disait, parce que la ville de Jérusalem se tient solitaire, le cœur percé par une muraille, cet horrible mur de la honte qui nous séparait justement de la Jérusalem historique, de telle sorte que nous n'avions aucune possibilité de nous rendre là-bas, comme le disait ce chant, pas même pour y prier. Nous étions réduits à monter sur la terrasse d'une institution religieuse catholique qui s'appelait Notre-Dame de France pour essayer d'apercevoir un petit peu quelque chose des murailles de la vieille ville. Une muraille traverse son cœur. Et le chant continuait en disant ceci, « Mais quand viendra le jour de célébrer, de garnir ton front de couronne, je serai comme le plus petit de tes fils et le dernier de tes poètes. Que ton nom brûle mes lèvres, que l'ange de son baiser de feu me dévore, si je t'oublie Jérusalem qui tout entière est d'or. » Et bien sûr, c'est ce chant qui a obtenu le premier prix, ce chant. Et lorsque je l'ai entendu, j'ai dit, tiens, il y a quelque chose de prophétique dans ce chant. Je ne savais pas quoi. Je ne pouvais pas réaliser, mais je dis, il y a quelque chose de particulier. C'était comme si, depuis cette chambre où je me trouvais, j'avais senti une onction de l'esprit sur ce chant. Et quand ce festival a été achevé, c'était le soir, c'était le dernier bulletin d'information de la journée. Et parmi les informations, des dernières informations dites un peu anecdotiquement, il y avait cette information selon laquelle le colonel Nasser, président de l'Égypte, massait des troupes dans le Sinaï. Ça ne nous a pas empêchés de dormir. Parce que tout le monde pensait que c'était une gesticulation militaire sans lendemain. C'était peut-être à cause du fait que, justement, cette petite mini-parade militaire avait été perçue comme une provocation et que les Arabes voulaient faire une démonstration de force. Voilà ce qu'on se disait. Deux jours après, le 16 au soir, les choses ont commencé à devenir un peu plus sérieuses. Nous avons appris, toujours par la radio, que le colonel Nasser avait demandé le retrait des troupes de l'ONU qui, pendant 19 ans, avait assuré, pendant 10 ans depuis 1956, la première guerre du Sinaï, avait assuré une espèce de paix précaire, avait servi de tampon dans des endroits névralgiques, notamment à Jérusalem, justement. Et quand il y avait des incidents de frontières, comme je disais tout à l'heure, en général, les troupes de l'ONU intervenaient pour faire cesser le feu au bout de quelques heures. Et voilà que le colonel Nasser a demandé le retrait de ses troupes de telle manière qu'elles ne gênent pas les opérations militaires que les Arabes s'apprêtaient à mener contre l'État d'Israël pour le détruire. Et nous avons entendu pour la première fois cet appel au politicide, à la destruction de l'État. Et chose tout à fait surprenante, sans aucune concertation avec le Conseil de sécurité, Le secrétaire général de l'ONU de l'époque, qui s'appelait Hutton, qui était un Birman, a ordonné que les troupes de l'ONU soient retirées. Et le 19 au soir, ce retrait était effectué. Et pour la première fois depuis la guerre du Sinaï en 1956, les troupes israéliennes et les troupes égyptiennes étaient au contact. Nous ne nous sommes pas encore vraiment inquiétés à cette période-là. Bien qu'il y avait déjà une mobilisation partielle des troupes israéliennes en cours. Nous avions des amis qui étaient venus en visite à Jérusalem à cette période-là et qui avaient profité de ce week-end, le 19 tombait un week-end, pour aller visiter le sud, Beersheba, la mer Morte, Elat, etc. Et le samedi soir, donc, à la fin du Shabbat, ils étaient rentrés de leur visite dans le sud. Et ils nous avaient dit, mais vous ne pouvez pas vous imaginer, nous avons croisé des colonnes ininterrompues de chars, de canons, qui descendent vers le sud. Là, nous avons commencé à sentir un peu le roussi. Et alors, les choses ont continué quelques jours encore. Je me souviendrai très longtemps de cette fameuse matinée du 23 mai. Juste à la fin des cours, vers midi, quand je suis sorti de mes cours à l'université, j'ai senti sur le campus une atmosphère bizarre. Tous les étudiants avaient des visages préoccupés, tendus, fermés. Oh, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs avaient des journaux qu'ils avaient étalés devant eux, il y avait des grands titres. Je me suis approché, j'essayais d'une manière très indiscrète de lire par-dessus leur épaule et j'ai lu le titre « Nasser ferme le détroit de Tyrane ». Le détroit de Tyrane, c'était le détroit qui se trouvait au débouché du golfe des Lattes et qui contrôlait justement l'entrée du port des Lattes. Ce détroit de Tyrane avait été justement ouvert après la guerre, la première guerre du Sinaï de 1956, et le seul gain militaire qu'Israël avait gardé de cette campagne du Sinaï, c'était le fait qu'il avait la liberté de navigation dans ce détroit de Tyrane, et des troupes de l'ONU étaient justement des deux côtés de ce détroit pour empêcher qu'il ne soit fermé. Or, les troupes de l'ONU étaient parties depuis 3 jours, nous l'avons vu tout à l'heure, et le colonel Nasser avait annoncé ce matin même, plutôt la veille, le 22, que désormais aucun bateau israélien ne remonterait par le détroit de Tyrane en direction d'Elat. Et Israël avait toujours dit, le jour où le détroit de Tyrane sera fermé, ce sera un casus belli, la guerre sera inévitable, car c'est l'étranglement de l'artère pétrolière, de l'alimentation pétrolière d'Israël. Et par conséquent, c'était l'asphyxie économique d'Israël inévitable que représentait cette fermeture du détroit de Tyrane. Et quand nous avons vu ce grand titre, Nasser ferme le détroit de Tyrane, nous avons su que la guerre était inévitable. L'après-midi, nous sommes retournés à l'université. Toujours cette ambiance tendue, grave. Et à 4 heures, quand nous sommes sortis de nos cours, il y avait devant là où stationnaient d'habitude les autobus, des rangées de camions militaires et des soldats qui abordaient les étudiants et qui les faisaient monter dans les camions, directement en direction du front. Et j'ai vu partir mes camarades directement embarqués dans ces camions, certains je ne les ai plus jamais revus. Et ça, c'était peut-être le moment le plus dramatique pour moi de cette guerre, de voir partir mes camarades. Alors je ne voulais pas rester en reste, et il y avait à l'entrée de l'université, dans les 2-3 jours qui ont suivi, un bureau pour les étudiants étrangers. Nous étions un certain nombre d'étudiants étrangers qui, bien sûr, n'étions pas mobilisables, mais ceux qui voulaient s'engager dans les volontaires de l'étranger pour des tâches non militaires. Alors je me suis engagé dans le Mahal, les volontaires de l'étranger pour des tâches non militaires. Rassurez-vous, si l'État d'Israël a survécu, ce n'est pas à moi qu'il le doit. Parce que mes seuls exploits militaires ont consisté à être terré 70 heures dans la cave. Mais voilà, c'était l'atmosphère. Et le lendemain, les rues se sont vidées. Les cours étaient arrêtés. Il n'y avait plus personne dans les rues. Les hommes disparaissaient, même les jeunes filles, mobilisables elles aussi. Puis, ce furent les autobus. Les autobus étaient réquisitionnés pour emmener les réservistes au front. Et puis après, ce furent même les voitures particulières. Il n'y avait plus de possibilité de se déplacer dans la ville. Et on devait compter justement sur la complaisance d'automobilistes qui vous prenaient en stop. D'ailleurs, c'était une atmosphère très particulière. Le peuple israélien est un peuple plutôt bourru, pas très très sympathique d'abord. On appelle ça les sabras, vous savez, c'est cette espèce de fruit qui est piquant. Les Israéliens ne sont pas d'un abord toujours très facile. Mais là, c'était Vous savez, il y a cette expression en hébreu, Kol Israël Chavirim, tout Israël est un peuple de frères. Et dans ces moments, justement, où on savait que c'était l'existence de l'État qui était en danger, eh bien, tout le monde se comportait d'une manière extraordinaire vis-à-vis les uns des autres. On s'arrêtait, on voyait à pied un autobus, tu as besoin d'un tram, c'est-à-dire d'un autostop, tu vas où ? Je peux t'emmener, etc. On n'avait même pas besoin de demander. Et alors, si vous faisiez un signe pour être arrêté, là, vous pouviez être sûr que dans la minute qui suivait, vous aviez une voiture qui s'arrêtait pour vous emmener là où vous vouliez aller. Alors, c'était une drôle d'atmosphère. Alors, nous n'avions plus rien à faire. Nous écoutions la radio, les radios arabes. Elles fulminaient. Et il y avait une chanteuse égyptienne qui était très réputée à cette époque, qui s'appelait Oum Kassouf. Elle avait une chanson qui était devenue un succès dans tout le monde arabe et qui passait 24 heures sur 24 sur les radios arabes. Khidbar, khidbar, khidbar. Égorge, égorge, égorge tous les juifs et les sionistes et jette leur tête dans la mer pour Wilson et Johnson. Président américain et le premier ministre britannique étaient considérés comme les alliés d'Israël. Et il y avait cette propagande qui venait de ces pays arabes en mauvais hébreu et qui nous promettait justement d'être massacrés jusqu'au dernier. Nous n'avions aucun doute sur le sort qui nous était réservé si par malheur les Arabes avaient gagné la guerre. D'ailleurs, après la guerre, Moshe Dayan a rassemblé tous les dignitaires religieux musulmans de Jérusalem pour leur dire qu'ils n'avaient rien à craindre d'Israël, que leurs droits religieux allaient être respectés. Et les autres, stupéfaits, ne répondaient pas. Et Moshe Dayan leur a dit, et si ça avait été l'inverse qui s'était produit ? Si c'était vous qui aviez gagné la guerre, qu'est-ce qui serait arrivé pour nous ? Aucun de ces gens n'a répondu. La réponse était évidente. Égorge. Beaucoup plus tard, le ministre israélien des Affaires étrangères de l'époque, qui s'appelait Abba Evan, dans un discours magistral devant l'ONU, a dit ceci. Pendant ces trois semaines fatidiques, c'était comme un nœud coulant qui se resserrait de plus en plus autour de notre cou. En effet, les Syriens ont annoncé, bien sûr, qu'il serait de la fête. Et on entendait les cris de ces foules arabes fanatisées, « Nous voulons la guerre !» C'était le cri qu'il y avait partout. Et puis, même les pays les plus lointains ont envoyé des troupes, l'Algérie, le Maroc, le Yémen, pourtant en guerre avec l'Égypte, s'étaient réconciliés pour faire face à l'ennemi sioniste. C'était toute une frénésie guerrière qui gagnait le monde arabe tout entier. Et même la Jordanie, qui au début avait voulu rester neutre, on a appris dans les derniers jours de... C'était le 1er juin, très exact... le 28 mai, que le roi Hussein s'était rendu au Caire pour signer un accord de coopération militaire avec Nasser. Nous étions complètement encerclés. Et dès le lendemain, depuis mes fenêtres qui me permettaient de voir les murailles de la vieille ville de Jérusalem, nous avons pu voir justement les préparatifs militaires des légionnaires jordaniens qui installaient des mines mitrailleuses, des sacs de sable sur les murailles de la vieille ville, des canons antiaériens, etc., etc. Et le gouvernement restait d'une incroyable passivité. On dirait aujourd'hui d'une retenue. C'était le même esprit. Et on avait annoncé que ce même 28 juin, le Premier ministre Lévi Eshkol ferait un discours à la Knesset pour faire le point de la situation. J'étais avec un autre ami, juif messianique, d'origine anglaise, qui, lui aussi, donc n'étant pas citoyen israélien, n'était pas mobilisable. Et n'ayant rien à faire, nous étions rendus à la Knesset pour avoir des échos. Nous ne pouvions pas rentrer, bien sûr. mais enfin d'avoir des échos de ce discours. Et nous, il y a de la Knesset un jardin qu'on appelle le jardin des roses. Et nous étions assis dans ce jardin des roses avec notre transistor et nous écoutions le discours du Premier ministre qui était retransmis depuis l'intérieur du bâtiment en face duquel nous nous trouvions. Et soudain, il y a eu quelque chose qui a été absolument dramatique. Lev Yeshkol s'est embrouillé dans ses feuilles, dans son discours. Il ne retrouvait plus la feuille, il ne savait plus où il en était, il a commencé à bafouiller, il s'est repris. Ça a été une impression terrible dans tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a eu l'impression qu'il n'était pas du tout gouverné. Et alors, il y avait des gens qui commençaient vraiment à paniquer. Bien que le peuple d'Israël soit resté absolument stoïque. Je me souviens de cette femme qui avait vu partir ses enfants et en rentrant avec elle dans l'autobus, elle disait « Em yarzeru beshalom, ils reviendront en paix ». Et alors, la pression s'est faite de plus en plus forte pour que soit nommé Premier ministre, plutôt ministre de la Défense, le héros de la guerre de 1956, le général Moshe Dayan. Et après un certain nombre de tergiversations, Moshe Dayan a été nommé Premier ministre le 1er juin 1967. Et à partir du moment de la nomination à ce poste de ministre de la Défense de Moshe Dayan, le peuple d'Israël a commencé à reprendre confiance. Parmi ceux qui ont eu pour charge de préparer cette guerre, il y avait aussi mon professeur d'archéologie, le professeur Yigal Yadin, qui avait été chef d'état-major de l'armée pendant la première guerre d'Israël en 1948 et qui avait été nommé conseiller militaire du ministre de la Défense. J'étais heureux de savoir qu'un homme auquel j'avais beaucoup d'estime était là aux commandes et c'est quelque chose évidemment qui nous rassurait énormément de savoir qu'il y avait des hommes compétents maintenant. Et vous savez sans doute, peut-être, si vous avez suivi un peu ces événements, que Moshe Dayan a fait une magnifique campagne d'intoxication. Peu de temps après être arrivé au ministère de la Défense, il a tenu une conférence de presse impromptue. Impromptue entre guillemets, bien sûr. Et là, il a dit ceci, « Eh bien, c'est trop tôt ou c'est trop tard pour la guerre ?» C'est trop tard parce qu'il aurait fallu attaquer tout de suite. Maintenant, nos ennemis sont mobilisés, nous sommes mobilisés, et par conséquent, nous aurons beaucoup de mal à arriver jusqu'au Caire, et il est hors de question pour nous de prendre l'initiative d'une campagne militaire. Et c'est trop tôt de toute manière pour tenter une action militaire parce qu'il y a des conversations diplomatiques en cours et nous attendons le résultat de ces négociations. On était le vendredi soir. Et effectivement, sur toutes les routes d'Israël, ce fameux vendredi soir, on a vu les réservistes revenir chez eux pour passer le week-end à la maison. Alors nous sommes dit effectivement, bon, il n'y a pas de problème. La guerre n'est pas pour demain. Nous étions prêts, la défense passive nous avait donné l'ordre de faire des réserves de nourriture, comment se comporter en cas de bombardement, des notions de secourisme, comment se protéger, etc. Bon, enfin bref, tout ce qu'on peut faire en pareil cas. Nous étions prêts malgré tout. Or, ce que nous ne savions pas, c'est qu'en arrivant chez eux, ces réservistes trouvaient un télégramme les invitant à rejoindre leur unité le plus rapidement et le plus discrètement possible. Et le 5 juin, le dimanche 5 juin, à 8h05 exactement, nous avons entendu sonner la sirène. Sirène de très mauvais augure qui laissait entendre que les choses graves étaient en cours. Je me suis précipité à ma fenêtre. Tout était calme. Est-ce que cette sirène nous invitait à rejoindre les abris ? Apparemment, personne ne bougeait, personne ne descendait dans les abris. J'ai fait comme eux, j'ai mis la radio. Et la radio publiait un message laconique du porte-parole de l'armée, disant à peu près ceci. Ce matin, aux premières heures du jour, les radars israéliens ont détecté des mouvements d'avions qui se dirigeaient vers nos frontières et des obus ennemis ont bombardé un kibbutz non loin de Gaza qui s'appelle Nahal Oz. Des mouvements de blindés ennemis se sont faits de plus en plus précis en direction de nos frontières et nos forces se sont portées en avant pour les arrêter. Des combats aériens sont en cours. Voilà tout ce que on nous a dit. C'était clair, la guerre était commencée. Nous sommes descendus, Jérusalem était absolument calme. Si ce n'est que l'on voyait des troupes qui montaient en ligne, avec leur barda sur l'épaule, en chantant « Evenu shalom alechem », nous vous apportons la paix. Alors bien, nous avons entendu un peu, rien ne se produisait. La radio, la veille, avait annoncé que Moshe Dayan devait, cette même matinée à 11h, prêter serment à la Knesset en tant que ministre de la Défense. Alors avec mon ami David, cet ami anglais dont je vous parlais tout à l'heure, nous avons dit, on n'a rien à faire, on va monter à nouveau à la Knesset pour assister, en tout cas, au moins on pourra peut-être apercevoir Moshe Dayan. Alors nous avons fait du stop, et tout de suite nous avons été pris par un monsieur qui nous a emmenés là-bas. Et alors, nous y continuons la radio. Tous les quarts d'heure, il y avait un bulletin d'information et c'était toujours le même. Rien, aucune modification. Nous n'avions aucune donnée sur la manière dont se déroulaient les combats. Nous sommes arrivés à la Knesset. Nous avons demandé si c'était bien là que Moshe Dayan devait prêter serment. On dit, mais vous vous rendez compte avec ce qui se passe? Mais Moshe Dayan ne va pas prêter serment aujourd'hui. Il n'y a rien. C'est remis sine die. Ah bon? Alors nous sommes installés dans le jardin des roses, là, nous sommes allongés sur le gazon. Tout était un calme extraordinaire, c'était là, un sentiment de paix, une magnifique journée de printemps. Nous avons entendu quelque temps la radio israélienne, nous avions le transistor à la main, diffuser des marches militaires, de la musique militaire, c'est tout. Et tous les quarts d'heure, le même bulletin d'information qui revenait, sans une virgule de deux de modifié. Au bout d'un temps, nous sommes redescendus chez nous. C'était l'Assemblée messianique de Jérusalem. Et là, la femme du pasteur était en train de coller du papier noir sur les fenêtres, selon les instructions de la défense passive. Ah, elle nous dit, vous arrivez bien. Ah, j'ai plus assez de papier. Descendez à la librairie qui est en bas de la rue, juste à côté de la frontière, et achetez-moi, alors, je ne sais pas, 20 rouleaux de papier noir. Alors je suis descendu. Je n'avais pas fait 100 mètres. Il était à peu près 11 heures que la fusillade éclatait. J'ai eu le temps de faire demi-tour à toute vitesse. Et là, cette fois-ci, tout le monde est descendu dans les abris. Que s'était-il passé? On l'a su par la suite. Le général commandant le Front Nord, aux anarchistes dont il nous a été parlé tout à l'heure, avait fait passer au roi Hussein un message de la part du gouvernement israélien, par l'intermédiaire des troupes de l'ONU, en disant que si le roi Hussein et la Jordanie restaient en dehors du conflit, eh bien, Jérusalem, le front jordanien ne serait pas inquiété. Israël n'avait pas l'intention d'attaquer la Jordanie. Et c'était tellement vrai que toutes les troupes israéliennes avaient été dépêchées vers le sud. À Jérusalem, il ne restait en tout et pour tout que 1500 hommes, ce qu'on appelait la brigade de Jérusalem, pour défendre tout Jérusalem, sans canon, sans tanks, sans armes lourdes, sans rien. Rien qu'avec des armes légères, c'était cette même brigade de Jérusalem qui avait défilé le 15 mai, qui maintenant allait défendre la ville. Et pour toute réponse, à 11h, la légion jordanienne a ouvert le feu sur Jérusalem. D'abord à l'arme légère, puis très vite à l'arme lourde. Et nous entendions les obus qui tombaient tout autour de nous. Nous avons su par la suite qu'il y avait eu ce premier jour 500 victimes civiles à Jérusalem, du côté israélien. Et notamment des premiers obus des canons long tom jordaniens, les canons à longue portée jordaniens, étaient tombés sur le musée, avaient brisé quelques pièces archéologiques rares. On les avait descendus ensuite dans des caves pour les protéger, mais c'était trop tard parce que cette guerre avait surpris tout le monde. Personne en Israël n'imaginait que le roi Hussein serait assez téméraire pour attaquer, alors que justement on lui avait fait cette proposition de rester en dehors du conflit. Or, ce qui nous a énormément surpris, c'est de constater que les Jordaniens tiraient comme à l'exercice et qu'il n'y avait aucune riposte du côté israélien. Pas un coup de feu n'était tiré. Et on a su par la suite que c'était l'ordre du gouvernement. Il avait dit à Ouzi Narkis, tu serres les dents et tu ne répliques pas, parce que peut-être que Hussein ne fait qu'un baroud d'honneur. Et alors, ça tombait partout, c'était une expression terrible. Être sous des bombardements, je ne sais pas si beaucoup ont cette expérience-là, Eh bien, c'est quelque chose d'affreux. On a l'impression qu'on ne peut rien faire. Et donc, est arrivée une accalmie, à peu près une heure de bombardement, et les gens qui étaient pris dans ces abris, on était en face du grand magasin, du grand supermarché Supersol, beaucoup de ceux qui faisaient leurs courses ont été pris par la soudaineté de ce bombardement, ils ont profité de l'accalmie pour rentrer chez eux. Et là, les premiers ont parlé un peu avec ces gens-là, il paraît qu'il y a 150 avions ennemis qui ont été abattus par nos avions. Bon, j'ai dit, écoutez, je sais qu'on est fort, mais quand même 150 avions, c'est quand même un peu beaucoup. On était encore bien loin du compte, mais ça, on ne savait pas encore, parce que la radio continuait. Elle ne disait strictement rien de nouveau, même pas le fait que Jérusalem était bombardée, simplement que les combats avaient lieu dans le sud, c'est tout. Et donc, l'heure du repas est arrivée, comme je disais à Aubonne l'autre jour. Le pasteur Kaufmann avait absolument tenu à ce que nous mangions dans la salle à manger, comme d'habitude, sans rien changer à nos coutumes. Il y avait un poulet à manger ce jour-là. J'aime autant vous dire qu'il avait du mal à passer. Et alors qu'on essayait de manger ce poulet, soudain nous avons vu passer sous nos fenêtres une colonne blindée israélienne avec les soldats casqués, prêts au combat, les doigts engagés sur les mitrailleuses qui étaient en batterie. À toute vitesse, ils descendaient vers la gare. Et quelques instants plus tard, nous avons entendu les bruits d'une fusillade, d'une canonnade qui se tenait en bas, là-bas, etc. Et nous avons compris qu'il y avait vers le sud de la ville des combats qui ont duré jusqu'à à peu près 5 heures de l'après-midi. Et à 5 heures de l'après-midi, la radio israélienne a annoncé qu'il y avait ces combats et que par conséquent, il y avait un nouveau front, cette fois-ci, qui était ouvert, le front jordanien. Et là, à environ une heure de l'après-midi, les troupes jordaniennes avaient reçu l'ordre de s'emparer de ce qu'on appelait le palais du gouverneur, qui était le siège de l'ONU, pour couper la Jérusalem juive en deux, la partie sud de la partie nord de la ville. Et là, c'était une menace évidemment existentielle, c'était une menace stratégique sur Jérusalem, et cette fois-ci, les troupes israéliennes avaient reçu l'ordre de riposter. Et un combat terrible s'était déroulé jusqu'à 5 heures, de 1 heure à 5 heures, au terme duquel, justement, les Jordaniens avaient été rejetés de l'autre côté de la frontière. Et là, les troupes israéliennes avaient reçu l'ordre d'investir Jérusalem. La bataille pour Jérusalem avait été commencée. Et toute la soirée, puis toute la nuit, nous avons entendu ces combats qui venaient de partout. La nuit a été particulièrement terrible. Nous avions aménagé des espèces de dortoirs dans la cave, puisque c'était le seul endroit où nous pouvions être, n'est-ce pas? Et là, il n'y avait pas d'électricité non plus, tout était coupé. Et là, nous étions bombardés par cette artillerie à longue portée jordanienne, puisqu'il n'y avait pas d'armes lourdes équivalentes du côté israélien. Et ce qui nous a sauvés, c'est que nous avons entendu arriver des avions. Premier réflexe, c'était de dire, est-ce que c'est ceux des Arabes ou c'est les nôtres? Alors, on rentrait la tête dans les épaules, comme ça, et on a entendu les bombes qui tombaient de l'autre côté. Ah, on s'est dit, c'est les nôtres. Et si c'est les nôtres, c'est qu'ils en ont fini dans le sud, c'est que ça a bien tourné dans le sud. On a commencé à... parce que la radio disait toujours rien. Alors, les avions bombardés, et les canons jordaniens s'arrêtaient. Pendant tout le temps où les avions bombardés, nous étions en répit. Mais les avions, au bout d'un temps, devaient retourner à leur base pour se ravitailler en essence, en bombes, etc. Et les Jordaniens profitaient de cette accalmie pour nous bombarder à nouveau. Alors toute la nuit, c'était une alternance d'accalmie et de bombardement. Et comme je disais tout à l'heure, reprenant le terme de l'apôtre Paul, nous désespérions de garder la vie. Là, si seulement on peut arriver à l'aube, vous savez, quand dans ces cas-là, c'est l'aube. On dit, si on arrive au moins vivant jusqu'à l'aube, alors on a une chance. Et quand on a vu les premières lueurs de l'aube, on a commencé un peu à respirer. Puis là, quelque chose d'autre s'est produit de terrible. Soudain, nous avons entendu une fusillade d'armes légères qui se tenait du côté nord par rapport à l'endroit où nous étions. On dit, tiens, il y a des combats qui se passent là-bas vers le nord. Et puis, nous avions l'impression que cette fusillade se rapprochait de nous comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les Jordaniens approchent? Et de plus le temps passait, plus plus cette fusillade se rapprochait. En fait, nous avons su par la suite que c'était les parachutistes qui étaient arrivés au milieu de la nuit, après avoir forcé le saillant de la Troune, où la route était coupée, comme je vous expliquais tout à l'heure, en bas du corridor de Jérusalem. Et au petit matin, ils avaient attaqué la partie nord de Jérusalem. Et de Jérusalem, tout le front s'était embrasé jusqu'au sud, si bien que nous, qui étions à peu près au centre de la ville, nous avions l'impression que du nord, c'était les Jordaniens qui avançaient. En fait, c'était l'inverse. Et ce qui a mis fin à notre angoisse, c'est qu'à 6 heures du matin, Kol Israël a donné le premier bulletin d'information. Et là, justement, ça a été à peu près ceci. La force aérienne israélienne a éliminé en plusieurs heures, simplement 3 heures, l'essentiel des forces aériennes ennemies. Ce n'était pas 150 avions qui étaient abattus, mais c'était plus de 300 avions ennemis, au prix de 26 avions israéliens abattus. Et la radio annonçait que les troupes israéliennes étaient profondément engagées, enfoncées dans le Sinaï et à Gaza, qu'à Jérusalem, la contre-attaque était commencée et que plusieurs positions importantes au nord de Jérusalem étaient tombées entre les mains des parachutistes du colonel Motagour. Alors nous sommes mis à hurler de joie dans cet abri. Et alors, je vous fais une petite confidence, je ne sais pas si je devrais la faire, mais enfin, dans ces cas-là, vous savez, on ne réfléchit pas trop. On avait annoncé la visite du pasteur Le Cossec, qui devait justement être présent à cette époque-là, et sa visite avait été remise pour cause de guerre, bien sûr. Et le pasteur Cossman me dit, pour la venue du pasteur Le Cossec, Jean-Marc, tu achèteras une bonne bouteille de vin. Alors j'avais acheté une bonne bouteille de vin pour la venue du pasteur Le Cossec, que j'avais mise au frais, là, dans la cave. Ah, j'ai dit, Le Cossec ou pas Le Cossec, on va la boire. Et ce matin-là, dans cette cave, nous avons bu c'est ce bon vin que j'avais mis de côté. Et alors là, donc, quand même, là, c'était beaucoup plus calme. Après, on a su que si l'aviation ennemie était clouée au sol, alors la victoire était certaine. Mais il a fallu encore de longues heures de bombardement. Les Jordaniens, les combats à Jérusalem ont été parmi les plus acharnés de la guerre. Ce d'autant que les forces israéliennes avaient reçu l'ordre d'épargner à tout prix les lieux saints. Si bien que lorsqu'on avait affaire à un lieu saint et Jérusalem en est truffé, eh bien les parachutistes, parmi lesquels certains de mes camarades qui ont laissé la vie d'ailleurs, étaient obligés de nettoyer la vieille ville à l'arme blanche et à la grenade. Ce qui fait que ça a augmenté considérablement les pertes du côté des parachutistes israéliens. Pendant toute la journée du 7, par conséquent, il y a eu ce double mouvement en tenaille des parachutistes israéliens qui encerclaient la vieille ville. Et le soir, quand la nuit est tombée, les bombardements étaient quand même un peu moindres que la veille, nous sommes montés sur la terrasse. La terrasse d'où nous pouvions apercevoir la vieille ville. Et là, c'était un spectacle absolument extraordinaire. Tout était éteint, évidemment, c'était le blackout complet des deux côtés de la ville, du côté jordanien comme du côté israélien. Mais les Israéliens qui encerclaient, maintenant toute la ville était encerclée, la ville intramuros, et l'armée israélienne avait braqué d'énormes projecteurs d'aviation sur les murailles de Jérusalem. Et on avait l'impression, comme le disait le chant de Naomi Shemer dont nous avons parlé tout à l'heure, que les murailles de Jérusalem étaient d'or pur. Et là, on voyait les tirs des traçantes qui s'échangeaient des deux côtés, comme un feu d'artifice mortel. L'aviation israélienne avait bombardé le Mont des Oliviers, qui était une position clé par laquelle les tanks jordaniens qui venaient de la région de Jéricho essayaient de monter pour essayer de dégager justement la tenaille israélienne. Et le Mont des Oliviers était en feu. Le Mont des Oliviers, avec tout ce qu'il représente, l'endroit où le Messie posera ses pieds, etc. Et là, on avait l'impression vraiment de toucher aux événements derniers. Comme on dit beaucoup d'Israéliens, on aurait vu le Messie apparaître dans ce moment-là, on n'aurait pas été surpris. Et soudain, je me suis ressouvenu de cette chanson de Naomi Shemer, Jérusalem de perles, d'or, de cuivre, de lumière, etc. C'était exactement ce qui était en train de se réaliser. Nous étions là comme fascinés par ce spectacle. Pendant 10 minutes et 10 minutes, nous étions là à regarder justement cette ville d'or, n'est-ce pas, qui était là, prête à tomber comme un fruit mûr, ce mont des Oliviers qui brûlait, et à la lueur de l'incendie, nous voyons les soldats israéliens qui montaient à l'assaut. Et le matin, donc, au lever du soleil, nous sommes remontés sur la terrasse. Et là, c'était le dernier acte, donc le 7 juin, le dernier acte de ce drame. Là, l'aviation israélienne était en train de bombarder le mont des Oliviers, qui était l'endroit où le verrou, la tenaille israélienne allait se refermer. Et par conséquent, le sommet du mont des Oliviers était l'enjeu de combat terrible entre justement les forces israéliennes et les forces jordaniennes. Et nous avons pu assister à cet assaut, notamment justement le bombardement de l'aviation israélienne qui bombardait le mont des Oliviers. Et c'était impressionnant de voir ces avions qui piquaient verticalement comme ça, et puis qui lâchaient leurs bombes. Soudain, le mont des Oliviers disparaissait sous la fumée des explosions. On disait, mais l'avion il s'est écrasé, c'est pas possible, il ne va pas se sortir de ce piqué. Et puis on le voyait qui repartait, qui refaisait un looping comme ça, qui revenait à l'attaque. Ça a duré jusque vers les 10 heures. Et puis là, donc, nous avons vu les soldats israéliens qui descendaient du mont des Oliviers. Et nous avons su plus tard que justement, ils s'apprêtaient à entrer par la porte des Lions dans Jérusalem. Et c'est là donc que nous sommes descendus au salon, attendant la suite des événements, parce qu'il n'y avait plus rien à voir, jusqu'au moment où ce soldat nous a annoncé que cette fois-ci, ça y était. Israël avait repris le contrôle de la vieille ville. Et là donc, ce soir, cette fameuse soirée du 7 juin, c'était le jour de la réunion de prière à l'Assemblée. Les quelques-uns qui n'étaient pas mobilisés, les personnes âgées, etc., étaient là. Non pas dans le lieu de culte, parce qu'on ne pouvait toujours pas allumer l'électricité, mais on s'était réunis dans le salon à quelques-uns. Et là, nous écoutions la radio. Et la radio annonçait la chute de Jérusalem. Les scènes dramatiques qui ont été évoquées tout à l'heure par notre frère, de l'arrivée des parachutistes au Kotel, le rabbin Goren, etc. Tout cela nous était rapporté par le menu. Quelques éléments burlesques aussi, on apprenait que dans la journée, Nasser avait téléphoné à son frère Hussein, celui que quelques jours encore, il accusait d'être la prostituée des anglo-américains, n'est-ce pas ? Maintenant, il appelait son frère. On entendait, les forces israéliennes avaient capté cette conversation et nous était retransmise. Et on entendait la sœur qui appelait Hussein. « Mon frère, est-ce que vous êtes là ?»« Oui, mon frère, je vous entends. » »« Alors, est-ce que nous allons dire que les Anglais et les Américains sont derrière les Israéliens pour nous avoir bombardés, ou est-ce que nous allons mettre seulement en cause les Américains ?» Et Hussein répondait, on va mettre aussi en cause les Anglais. Très bien, mon frère, nous allons faire une déclaration, vous ferez une déclaration, les Syriens feront une déclaration, disons que les Anglais et les Américains combattent aux côtés des Israéliens dans le conflit, n'est-ce pas ? Oui, mon frère, comptez sur moi, mon frère, portez-vous bien, mon frère. Gros éclat de rire dans toutes les chaumières israéliennes, n'est-ce pas ? Bel exemple de désinformation. Mais ce qui était moins dramatique, c'est lorsqu'on nous annonçait que les troupes israéliennes avaient libéré Bethléem, la ville du Messie, Hébron, la ville des patriarches, Jéricho. Et là, le commandant qui commandait l'unité avait demandé que l'on sonne du shofar, qu'on fasse le tour de la ville avant de lui donner l'assaut, qu'on sonne du shofar au cas où les murailles tomberaient, qu'on n'aurait pas besoin de la prendre d'assaut. Authentique. Et puis toutes les villes de la rive occidentale, et toute la rive occidentale était entre les mains d'Israël. Le lendemain, pour la première fois, nous avons eu le droit de sortir des abris, et nous sommes allés le long de la frontière, l'ancienne frontière. Elle était encore évidemment infranchissable, il y avait des traces de combat, on voyait des véhicules, des bâtiments calcinés, etc. Et puis, nous apprenions que des combats extrêmement durs se déroulaient encore dans le Sinaï entre blindés égyptiens et blindés israéliens. Ce n'est que le soir que on nous a annoncé que l'Égypte capitulait et que Nasser démissionnait. Là aussi, c'était un beau vaudeville, car quelques heures après, on apprenait que sous la pression de la foule qui criait « Nasser, reviens !» Nasser était revenu au pouvoir. Et puis le soir aussi, le lendemain soir, nous apprenions que la Syrie capitulait. La Syrie qui n'avait pour ainsi dire, enfin, pas tiré un coup de feu, si. En fait, pendant toute la guerre, le front nord, le front du Golan, avait été bombardé. Pour ceux qui ne connaissent pas Israël, il faut se dire que toute la vallée du Jourdain est surplombée à l'est par un plateau qui est très élevé et qui domine cette vallée du Jourdain, qui était aux mains de la Syrie jusqu'en 1967. Et depuis ce belvédère que représentait ce plateau, les Syriens avaient installé trois lignes de fortifications à la soviétique, avec des casemates enterrées, des canons lourds, et depuis des années, ils tiraient sans arrêt sur les kibboutz qui étaient en bas dans la vallée. Et pendant des années, les habitants de la vallée avaient vécu un cauchemar, les enfants dormaient dans les abris tous les soirs, pratiquement. Et constamment, on entendait tirs de bombardement sur tel kibboutz de la vallée du Jourdain, etc. Au début de la guerre, les Syriens très courageux avaient lancé une mini-attaque sur un kibboutz qui avait été vite repoussé. Et finalement, ils s'étaient tenus quoi ? Ils s'étaient contentés de continuer leur bombardement routinier, si j'ose dire, avec un peu plus d'intensité que d'habitude. Et lorsque leurs alliés ont déposé les armes, les Jordaniens et les Égyptiens, eux aussi ont décidé de demander le cessez-le-feu. Et ils étaient ceux qui n'avaient absolument pas souffert de ce conflit. Moshe Dayan savait que les Syriens étaient très proches de Moscou, et Moshe Dayan avait très peur des Soviétiques, et il a donc décidé de mettre fin à la guerre. Et voilà que pendant la nuit, les Syriens ont repris les tirs sur les kibboutz qui étaient en bas dans la vallée. Alors, les habitants des kibboutz sont venus voir Moshe Dayan et ont dit « Si tu ne donnes pas l'ordre d'attaquer le plateau, nous tous, nous quittons la vallée définitivement. » Alors, immédiatement, Dayan a rappelé les troupes qui revenaient harassées des combats dans le Sinaï et les a expédiées dans le nord. Et le lendemain matin, l'assaut du Golan était donné dans des conditions absolument extraordinaires. Le plateau avait subi un bombardement aérien sans arrêt, mais quand les parachutistes sont arrivés dans les casemates, il n'y avait pas une égratignure, malgré les bombes qui avaient été lancées pendant des heures et des heures, n'est-ce pas ? Il a fallu nettoyer ces bunkers dans des conditions terribles. Là aussi, les pertes israéliennes ont été extrêmement lourdes. Et donc, nous avons appris que ces combats se poursuivaient dans le nord. Et le vendredi matin, donc dernier jour de la guerre, nous avons reçu un coup de téléphone des États-Unis de la fille du pasteur Korsman qui était là-bas et qui a dit à son père, « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» La télévision des États-Unis montre les avant-gardes israéliennes qui sont dans Damas. C'est pas possible. Alors nous avons appris quelques heures plus tard que cette fois-ci, Moscou s'était vraiment fâché. Et donc Moshe Dayan avait donné l'ordre immédiatement aux troupes israéliennes d'évacuer Damas et de se replier sur la ligne de Kounetra, qui était donc l'extrémité du plateau. Et c'est ainsi que, au moment où le Shabbat entrait en vigueur, donc le vendredi soir au coucher du soleil, les combats s'arrêtaient partout sur le front. La guerre des six jours était terminée. Et le septième jour, le peuple d'Israël s'est reposé. Amen. Victoire qui a laissé sans voix tous les Israéliens. Comme je disais tout à l'heure, ce qui a été la plus grande surprise de cette guerre, il y a deux grandes surprises. La première, c'est que nous étions restés en vie. Ça, le peuple d'Israël tout entier s'est demandé si ce n'était pas la fin pour lui. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'Israël n'a couru aucun danger, que les choses se sont passées comme elles auraient dû se passer, qu'Israël d'ailleurs avait planifié cette guerre, ce qui est absolument faux. Cette guerre a surpris tout le monde. Et lorsque les combats éclataient à Jérusalem le 5 juin à 11h, le général Uzi Narkis a téléphoné au maire de Jérusalem-Ouest, Teddy Kollek, en lui disant « Teddy, les Jordaniens veulent absolument faire de toi le maire de la Jérusalem réunifiée, prépare-toi. Et Teddy Kollek a dit, rien n'était prêt. Nous n'avions aucun plan pour la réunification de Jérusalem. Ça a été pris absolument par surprise. Et la deuxième surprise, ça a été la prise de Jérusalem, justement. Parce que Jérusalem n'était pas dans les plans de l'état-major israélien. Israël a tout fait pour éviter d'entrer en conflit avec la Jordanie. Et c'est pas ce qu'a pris le roi Hussein. Pourquoi il a attaqué? C'était incompréhensible, cette attaque. Mais c'était justement planifié au cadran de l'histoire divine, parce que le temps des nations était arrivé. La fin du temps des nations était arrivée. Et quelques jours après, nous avons vu alors arriver des bulldozers, des équipes de sapeurs, et cet horrible mur de béton qui se trouvait à 150 mètres de la frontière a été dynamité. Je me souviens quand nous sommes sortis pour assister à ces explosions, vous voyez ce mur qui volait en éclats, et tout le monde applaudissait. Mais il a fallu attendre le jour de la Pentecôte qui se célébrait cette année-là, le 14 juin, la Pentecôte juive bien sûr, pour que nous ayons la possibilité d'aller dans la vieille ville. Les combats duraient encore, il y avait des tireurs isolés, il y avait des mines, il y avait des obus non explosés, et le public n'a été autorisé à se rendre dans la vieille ville que le jour de la Pentecôte. Pour ce faire, un itinéraire avait été balisé par l'armée d'Israël, qui était donc jalonné de drapeaux. Et l'emplacement qui était devant le cotel, où on accédait jusqu'alors que par une ruelle étroite qui n'était pas plus large, qui n'était même pas large comme cette salle finalement. Et d'ailleurs, il y avait des légionnaires jordaniens qui veillaient à ce que personne ne touche le mur et personne ne glisse un papier dans le mur. C'est ça la liberté de culte sous l'islam. Hein. Et alors, pour faire la place pour tous les visiteurs qui allaient venir, on avait dynamité toutes sortes de vieilles masures qui étaient là, pour faire un immense espace qui existe encore aujourd'hui pour ceux qui connaissent Jérusalem, qu'on appelle la Plaza, qui est juste en contrebas du mur, du cotel. Et ce jour-là, donc, eh bien, il y avait 250 000 Israéliens qui étaient venus de tout le pays, 250 000 à 300 000 Israéliens, qui avaient voyagé de nuit depuis le nord du pays, l'extrême sud, depuis Elat, des enfants des écoles, des kibbutz, etc., tous avec justement le drapeau israélien arborant le drapeau israélien. Moi, j'avais acheté aussi un drapeau israélien. Ça se vendait comme des petits pains à cette époque-là. On n'avait pas besoin de draps, ça se vendait. Il y en avait. Et quand j'étais arrivé la première fois à Jérusalem en 1962, on m'avait dit, mais avec un certificat de baptême, en tant que chrétien, tu peux aller dans la vieille ville. J'ai dit non, j'attendrai d'aller dans la vieille ville, j'irai dans la vieille ville le jour où les Israéliens seront autorisés à y aller. Et là, j'ai tenu mon serment. Ce 14 juin 1967, eh bien, avec cette foule en délire, cette foule qui évoquait, vous savez, les grands rassemblements de Pentecôte, parce que le Pentecôte, c'est la fête du rassemblement d'Israël. Hein ? Eh bien, tout le peuple était rassemblé au pied du cotel, et tout le monde chantait le chant qui était devenu l'hymne national, si j'ose dire, de la guerre des six jours, Yerushalayim shel Zahav, et Naomi Shemer avait ajouté à un quatrième verset. Elle dit, nous sommes revenus vers les sources d'eau, vers la place et vers le marché. Nous visitons la montagne du Temple et les grottes qui sont au sein des rochers brillent de mille soleils. Enfin, nous descendons et nous revenons vers la mer morte par la route de Jéricho. Et deux jours après, alors, un autre événement extrêmement important eut lieu. Cette fois-ci, le mur, la frontière plus exactement, a complètement disparu. Et ce jour-là, les Israéliens ont pu aller de l'autre côté, dans la vieille ville de Jérusalem, qu'ils n'avaient pas vue depuis 19 ans, librement. Et les Arabes ont pu venir de notre côté. Et nous avons vu arriver, aux premières heures du matin, les habitants de la vieille ville arabe qui venaient chez nous. J'avais repris mes activités en tant que responsable de la librairie évangélique qui dépendait de l'Assemblée messianique. J'étais dans mon magasin. Je regardais de temps en temps à la fenêtre ce spectacle étonnant de ces femmes arabes avec leurs vêtements typiques, les hommes avec leur keffieh, etc. C'était drôle. Et puis, on n'avait pas l'impression du tout d'ennemis. On avait plutôt l'impression de gens de voisins qui se retrouvaient après des années d'absence. Et soudain est entré dans ce magasin de la Bible un homme de 30-35 ans, basané, qui m'a parlé en anglais. Il m'a dit « Est-ce que vous avez une Bible en arabe ?» Je lui ai dit « Oui, j'ai une Bible en arabe, bien sûr. » Alors je lui présente la Bible. Et en fait, c'était pour lui le prétexte pour engager la conversation. Il me dit « Mais c'est quoi ici ?» Ben, je lui dis « C'est un magasin de la Bible qui dépend de l'Assemblée messianique qui est juste à côté, là. » Il dit « Oui, j'ai vu cette chapelle, là, c'est quoi ?» J'ai dit « C'est une église qui est composée en majorité de juifs qui ont cru en Jésus, qu'on appelle des juifs messianiques. » Ah, il m'a dit « Parce que moi, je suis un chrétien de la vieille ville, arabe. » Je lui ai dit « Vous êtes le bienvenu, monsieur. » Il me dit « Vous voyez, cette église-là, avant la guerre de 1948, cette église qui est maintenant l'Assemblée messianique, c'est là que je me suis converti. » Et après, juste après m'être converti, la guerre a éclaté. Et j'ai fait un serment, j'ai dit « Seigneur, le jour où il y aura la paix avec Israël, la première chose que je ferai, ce sera de retourner dans l'église où je me suis converti. » Alors j'ai tout de suite appelé le pasteur Kaufmann, et l'arabe et le juif, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, ils se sont mis à pleurer, ils se sont mis à s'embrasser les uns les autres. C'était un mercredi, c'était le jour de la réunion de prière. Et le pasteur Grossman a dit à ce monsieur qui s'appelait Georges, « Je crois que vous venez donner votre témoignage ce soir. » Et ce Georges, traduit par un arabe chrétien qui était membre de l'Assemblée messianique, eh bien, a donné son témoignage. Puis après, il nous a invités. Il a dit « C'est vous qui viendrez dans notre assemblée dans la vieille ville de Jérusalem. » Et c'est ainsi que, avec ce guide, j'ai pu faire mes premières visites de la vieille ville de Jérusalem. Nous sommes allés, comme disait le chant de Naomi Shemer, à Bethléem, à Jéricho, à Gaza même. C'était déjà de la tension là-bas. C'était pas simple. C'est pas... Et là, eh bien, on avait une impression très, très, très particulière. On avait l'impression que la paix était à portée de la main. Encore une fois, entre juifs et arabes, il n'y avait absolument aucune hostilité. Du moins, à certainement quelques extrémistes du côté arabe qui continuent à faire quelques attentats, mais disons, la majorité de la population, encore une fois, c'était des retrouvailles entre frères. Et on disait, ben ça y est, c'est la paix. Et voilà, je conclue maintenant, 40 ans ont passé. Et il y avait deux choses qui nous semblaient à portée de la main, la paix et la venue du Messie. Et là, comme disaient plusieurs, on n'attendait plus que lui. Et tout le monde était persuadé que le Messie était à la porte. Et puis 40 ans ont passé. 40 ans où la paix attendue ne s'est pas instaurée. Au contraire, ce qui était une retrouvaille à cette époque-là, entre juifs et arabes, a dégénéré malheureusement non plus en conflit régional, comme c'était le cas à cette période-là, mais a été maintenant mondialisé. Et jamais la haine arabe n'a été aussi forte que maintenant. Et 40 ans après, 40 ans, c'est très intéressant. C'est un chiffre symbolique dans la Bible. C'est le chiffre de la patience de Dieu. Souvenez-vous que Dieu a donné à Ninive 40 jours de grâce. Encore 40 jours et Ninive est détruite. 40 jours où Ninive avait la possibilité de se repentir. Et parce qu'elle a, effectivement, elle s'est repentie, elle a été épargnée. Je crois que Dieu a donné 40 ans au monde, 40 ans de répit, pour qu'il accepte le plan de Dieu. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que prenne fin le temps des nations. Et les nations n'ont pas accepté la fin de leur domination sur Jérusalem. En ce jour, nous revivons, j'ai l'impression, disait à notre frère tout à l'heure, qui va montrer ce mail, où il était question du boycott des festivités du 40e anniversaire de la réunification de Jérusalem par toutes les grandes chancelleries. Je dis, mais c'est ce que nous avons vu il y a 40 ans exactement. Rien n'a changé. Les nations n'acceptent pas que Jérusalem soit juive. C'est inacceptable pour elles. Savez-vous que quand un enfant né d'une mère américaine à Jérusalem, l'état civil refuse d'enregistrer le lieu de la naissance de l'enfant. Et lieu de naissance, néant, porte l'état civil américain. Jérusalem n'existe pas pour l'état civil américain. Et finalement, ici, ce qui s'est passé depuis ce temps, c'est un mouvement très important qu'on lit dans le chapitre 16 du livre de l'Apocalypse. Et je vis les esprits, trois esprits mauvais, semblables à des grenouilles, qui vont vers les rois de la terre pour les rassembler pour le grand jour de l'Éternel. Il les rassembla dans un lieu appelé en hébreu Har-Megiddo, la montagne de Megiddo. Et ces 40 ans passés sont le temps où les esprits de ténèbres sont allés vers les rois de la terre pour les rassembler pour le combat ultime des nations contre Jérusalem. Les nations qui monteront à Jérusalem, selon ce qui étudie la prophétie avait annoncé déjà bien longtemps. Je citais à Aubonne le pasteur Lecossec qui en 1958 écrivait que pour que la prophétie s'accomplisse, il faudrait que Jérusalem, la partie arabe de Jérusalem, redevienne juive. Et il écrivait ceci mot à mot. Il faut donc s'attendre dans un avenir proche à ce qu'un nouveau conflit au Moyen-Orient fasse qu'Israël retrouve la souveraineté sur Jérusalem afin justement que les prophéties puissent s'accomplir. Et ce fut à peine 10 ans plus tard exactement ce qui se réalisa. Aujourd'hui, les derniers obstacles sont levés pour l'accomplissement des choses dernières. Les esprits de ténèbres qui rassemblent toutes les nations contre Jérusalem. Et comme je disais, depuis cette guerre du Liban de l'été dernier, quand on voit justement ces forces de la Finule qui sont maintenant à 50 km au nord d'Armageddon. 50 km, c'est une heure de trajet de char. 35 000 hommes sont déployés. C'est déjà cette avant-garde de l'armée des nations qui se met en branle vers Jérusalem pour l'accomplissement des choses dernières. C'était il y a quelques jours, dans une rencontre avec des diplomates israéliens qui faisaient le bilan de la situation. Et je peux vous dire une chose qui m'a beaucoup frappé, c'était que ces gens étaient d'un pessimisme extrêmement fort, ce qui n'est pas typique des Israéliens. Les Israéliens sont des gens qui sont plutôt optimistes. Et là, ils disaient, c'est l'impasse totale. L'impasse. Israël est dans une nasse. Israël ne peut plus ni avancer ni reculer. C'est comme devant la mer Rouge. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ça sur le plan de la géopolitique qui nous a été, le bilan et le tableau géopolitique qui nous a été dressé, mais c'était à ça que la conclusion aboutissait. C'est comme au bord de la mer Rouge. Israël ne peut plus ni avancer ni reculer. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, d'un nouveau bouleversement pour débloquer la situation. Et 40 ans après, je suis persuadé, ce n'est pas une révélation, c'est tout simplement la prospective, n'est-ce pas? Eh bien, que nous sommes à la veille de bouleversements extrêmement importants qui ne vont pas seulement toucher le Moyen-Orient, mais le monde entier. Il a fallu un conflit mondial pour débloquer la situation en 1917. Il a fallu un deuxième conflit mondial pour qu'Israël naisse en 1948. Et maintenant, fera-t-il un troisième conflit mondial ou un bouleversement mondial de cette importance-là pour que la situation soit débloquée au Moyen-Orient? On peut le craindre, on peut le redouter. Sera-ce le dernier? Y aura-t-il d'autres péripéties? Dieu seul le sait. Mais une chose est sûre, c'est que nous allons vers l'accomplissement des choses dernières, telles qu'elles ont été annoncées par les prophètes, parce que tout s'accomplit selon ce qui a été annoncé. Il faut être aveugle pour le voir, pour ne pas le voir. Malheureusement, beaucoup le sont, mais ça aussi c'était annoncé. La parabole des vierges folles était claire, d'autres paraboles du même ordre. Et je terminerai tout simplement en évoquant ce texte d'Ésaïe 52 que nous connaissons bien et que nous attribuons souvent au peuple juif lors de la première venue de Jésus. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Et on dit, ces pauvres juifs qui n'ont pas reconnu Jésus, pourtant les prophéties étaient tellement claires. Aujourd'hui, on pourrait appliquer ça aux nations, à bien des gens dans les églises qui a cru. Alors je m'arrête parce que j'ai plus que 5 minutes, on me met ça. Simplement en disant ceci, qui a cru, oui. Et en reprenant ce texte qu'on trouve aussi dans le livre du prophète Ésaïe, « Maintenant encore, dit l'Éternel ». C'est dans Joël, pardon. « Maintenant encore ». Il est tard, mais il n'est pas trop tard. « Revenez à moi de tout votre cœur. Réveillez-vous de votre sommeil. » Le grand chauffard retentit. Le chauffard qui annonce la venue du roi de gloire. Voici, il vient sur les nuées du ciel. Qui est prêt à le recevoir? Qui est prêt à le croire? S'il revenait ce soir, qu'arriverait-il de toi? Serais-tu prêt? L'un sera pris, l'autre laissé. Alors que les hommes ne se douteront de rien. Alors, eh bien, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Prions courtement. Seigneur, merci de nous rappeler que tu es celui qui vient, de nous permettre de voir de nos yeux ce que des prophètes avaient annoncé sans voir ces choses. Et tu nous donnes le privilège d'en être les témoins oculaires, mais nous avons aussi cette responsabilité. Aide-nous, Seigneur, à être de ceux qui se réveillent, qui se lèvent et qui vont à la rencontre de l'époux. Au nom de Jésus. Amen.